France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Des coupures d'eau et d'électricité, des patientes mortes à l'hôpital public, du clientélisme qui tient les sociétés à l'écart des richesses, au bénéfice d'une poignée de personnes, du Maroc au Bangladesh, en passant par la Serbie ou le Népal, ce sont les mêmes mots qui sont dénoncés. Troisième volet d'une série de 8 épisodes, inégalité, une colère universelle. Aujourd'hui en Indonésie, non à une démocratie de privilégiés.
Voilà, ça, c'est l'extrait d'un direct que j'ai fait pendant une manifestation à Jakarta. J'ai dit que le gouvernement devrait avoir peur qu'on fasse comme la Révolution française. Ils volent l'argent du peuple pour vivre une vie de luxe. Et ça met ma génération en colère.
Je me suis joint à la manifestation parce que je suis très préoccupé par la mort de mon collègue. Nous demandons justice pour Afan. Les responsables qui l'ont renversé doivent être jugés de manière équitable et renvoyés de la police.
Nous ne pouvons nier qu'il existe des signes d'action illégale, voire contraires à la loi, et qui tendent même vers la trahison et le terrorisme. À la police nationale et à l'armée indonésienne, je vous ordonne de prendre les mesures les plus sévères contre la destruction des équipements publics, le pillage des maisons privées et des centres économiques, conformément aux lois en vigueur.
Au départ, en août dernier, ça ressemble à une blague de gamin. À l'approche de la fête de l'indépendance, le 17 août, le Premier ministre Prabowo Subianto appelle à lever partout, fièrement, bien haut, les couleurs de l'Indonésie, le drapeau rouge et blanc. Et alors qu'il attend, confiant que chacun s'exécute, c'est la tête de mort au petit chapeau, encore elle, qui, d'immeuble en immeuble, de ville en ville et d'une île à l'autre, va exhiber partout son sourire crispé, le drapeau pirate du manga One Piece, devenu l'emblème d'une génération. En quête de justice sociale. Puis la farce tourne à la colère après que le Parlement eut décidé d'une indemnité logement pour les députés considérés comme indus. Des milliers de jeunes descendent dans les rues et peau contre peau deviennent les pulsations d'un seul et même cœur. Mais bientôt les policiers et militaires, contrairement à Madagascar dont on parlait hier, se font un honneur d'obéir aux ordres. Le chancre de leurs ailes a fait au moins 6 morts à Jakarta. Depuis, l'élan est un peu retombé. La menace de la répression et la mort d'un chauffeur-livreur Afan Kurniawan, écrasé par une voiture de police, fait craindre à chacun pour sa vie, d'autant que le Premier ministre, Prabowo Subianto, élu il y a un an, fut général de l'armée sous l'ordre nouveau du dictateur Suharto, à une époque où, pour reprendre une expression de l'écrivaine coréenne Han Kang, il n'y avait plus de cercueil dans le centre-ville et les charpentiers en fabriquaient avec du contreplaqué pour répondre aux besoins pressants. Les émeutes pour réclamer sa chute avaient fait plus de 2000 morts en 98. Bonjour Delphine Alès.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes professeure de sciences politiques, chercheuse au Centre sur l'Asie du Sud-Est, vice-présidente de l'INALCO. Vous connaissez très bien l'Indonésie. Et d'ailleurs, quand on parle de l'Indonésie, il faut bien avoir en tête qu'on parle de plus de 900 îles habitées, de 285 millions de personnes, dont toutes ne parlent d'ailleurs pas la même langue. Est-ce qu'il est intéressant, Delphine Alès, ou parlant, de regarder plus en détail en quel point de l'Indonésie les manifestations ont pris, entre guillemets?
Ce qui est très intéressant avec le mouvement de contestation dont on parle en ce moment, donc qui s'est cristallisé à la fin du mois d'août et début septembre, c'est qu'il a pris dans tout l'archipel. Ce sont effectivement les manifestations les plus importantes depuis celle de 1998 qui avait vu la chute du régime du général Suharto. Elles ont commencé, comme c'est très souvent le cas, à Jakarta, mais très rapidement, on a vu se déployer. Alors, vous parliez tout à l'heure symboliquement du Jolly Roger, ce drapeau pirate émeutes qui s'est répandue dans tout l'archipel au mois d'août, mais les manifestations dans la rue et les violences parfois se sont déployées effectivement dans tout l'archipel, y compris dans des régions où il n'y a pas nécessairement un grand intérêt pour la politique nationale. Je pense particulièrement à la région d'Aceh, tout au nord de l'île de Sumatra, où habituellement les contestations portent plutôt sur des thématiques locales ou régionales, avec un détachement volontaire vis-à-vis des enjeux de la capitale.
Sur l'île de Sumatra, l'île de Bornéo, à Bali aussi, la très touristique Bali, dans d'autres grandes villes de Java également, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Donc partout en Indonésie, on voit se lever les couleurs des drapeaux pirates Jolly Roger du manga One Piece au mois d'août. D'ailleurs, pourquoi le Premier ministre indonésien avait-il demandé à tous les Indonésiens de hisser le drapeau de l'Indonésie à ce moment-là?
Alors le président indonésien Prabowo Subianto avait demandé au mois d'août, comme c'est très souvent le cas, de pavoiser effectivement aux couleurs rouges et blanches de l'Indonésie. Le mois d'août, c'est le mois de l'indépendance nationale, la fête de l'indépendance est le 17 août, et on a l'habitude d'afficher les couleurs. Il avait demandé à ce que ce soit particulièrement visible cette année. Ce qui est très intéressant effectivement, c'est que petit à petit on a vu dans un premier temps des conducteurs de camions afficher ce drapeau pirate à l'arrière de leur véhicule, et puis progressivement, sur un ton d'abord relativement léger et de plus en plus lourd au fur et à mesure que des parlementaires disaient qu'il fallait réprimer cet affichage de drapeaux alternatifs qui nuisait, disaient-ils, à l'image de l'unité indonésienne, c'est devenu le symbole d'une contestation très forte du pouvoir, et on a commencé à politiser cet affichage en expliquant, on l'a entendu de la part d'un certain nombre notamment de responsables syndicaux ou étudiants, qui expliquaient qu'ils faisaient le choix d'afficher un autre drapeau que le drapeau national tant que l'Indonésie était dirigée par des responsables politiques qui n'étaient pas à la hauteur des attentes de la population.
Tu veux savoir pourquoi l'État a tellement peur de ce drapeau One Piece? Parce qu'il est conscient de la colère et du mécontentement qui monte depuis la base. One Piece, c'est tout simplement le message de justice sociale version Gen Z. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en accrochant nos drapeaux sur les camions qui roulent, ou en descendant dans la rue, si nos voix s'unissent, la société civile deviendra un mouvement puissant, aux effets immenses, mes amis.
Dans une vidéo TikTok, un étudiant Virdian rappelle les enjeux de ce drapeau et surtout ce symbole du manga One Piece qui est très suivi par ailleurs en Indonésie, Delphine Alès. Alors ça, c'était les prémices de la contestation, ces drapeaux qui fleurissent un peu partout. Et un peu plus tard, et même si elle n'a pas elle seule mobilisé des dizaines de milliers de personnes sur toutes les îles d'emblée, mais une mesure a quand même cristallisé des colères qui jusque-là s'étaient peu exprimées, peut-être se satisfaisaient-elles jusqu'à présent d'exister. En tout cas, quand les Indonésiens apprennent l'octroi d'une indemnité logement aux députés du pays, ça ne passe absolument pas. À quel titre les élus du peuple se voyaient attribuer cette allocation et de quel montant?
Alors, il faut savoir que le Parlement indonésien est composé de 580 membres. C'est un Parlement qui est pléthorique. Et les élus avaient décidé, effectivement, de s'octroyer une indemnité de logement, considérant que le niveau de vie, le coût de la vie avait augmenté considérablement dans la capitale. Ce qui est le cas pour eux, effectivement, mais aussi pour l'ensemble de la société indonésienne. Et pour donner un ordre de grandeur, cette indemnité de résidence équivalente à peu près à 3 000 $, ça représente entre 10 et 20 fois le salaire minimum qui varie en fonction des provinces indonésiennes, mais qui est aux environs de 250 $, 300 $ par mois dans la plupart d'entre elles. Donc ça a suscité évidemment une colère immédiate qui était sans doute la représentation d'insatisfaction cristallisée à très long terme. Effectivement, une très forte demande de justice sociale, un très grand différentiel entre les attentes de la population, sans doute renforcé par la campagne électorale qui a vu l'élection de Prabowo Subianto, puisqu'il avait décidé d'entretenir un registre politique très populiste, ce qui a créé des attentes, ou ce qui a renforcé des attentes qui étaient déjà très très fortes. L'inflation est très élevée en ce moment en Indonésie, elle n'est pas compensée par une augmentation du salaire minimum, et un certain nombre de décisions politiques ou symboliques avaient créé de l'insatisfaction pendant les premiers mois de la présidence de Prabowo Subianto. Ça a éclaté effectivement avec cette décision à rebours, à contre-courant, d'augmenter de manière drastique les indemnités parlementaires.
L'Indonésie, qui est la 16e économie mondiale, Indonésie dont le Financial Times se demandait il y a 2 ans si elle n'était pas en train de devenir une superpuissance économique, mais les revenus de la croissance sont très inégalement répartis. C'est ce qui aussi a petit à petit progressivement cristallisé les colères. Le président Prabowo Subianto, pourtant depuis son élection, il y a 1 an, il a mis en place certains programmes censés bénéficier à tout le monde. Je ne sais pas si ce sont de ceci que vous parlez, Delphine Alès, en parlant de mesures populistes, mais ce programme de repas scolaire gratuit, par exemple, est-ce qu'il n'a pas contribué à soulager des familles entières ?
Alors, les revenus de la croissance sont non seulement inégalement répartis, mais en plus, ils sont insuffisants pour financer les programmes prévus par le président Prabowo Subianto.
Les revenus de la croissance, pas les bénéfices. Bien fait de me corriger.
Il table sur une augmentation de la croissance à hauteur de 8% d'ici la fin de son mandat. Tous les économistes indonésiens disent qu'il faudrait vraiment faire énormément de prières pour arriver à ce taux de croissance. Et donc, ça entraîne effectivement pour des programmes massifs comme celui que vous avez cité, qui vise à offrir gratuitement des repas à plus de 80 millions d'Indonésiens, c'est-à-dire les écoliers et les femmes enceintes. Le président est obligé de financer ces programmes en réduisant la dépense publique dans d'autres domaines. Ça pose des problèmes massifs. On parle pour la première phase de mise en œuvre de ce programme de 4 milliards, l'équivalent de 4 milliards d'euros de dépenses pour l'État indonésien. Donc un problème de financement qui a conduit le gouvernement à recentraliser une partie des finances qui étaient avant transférées aux régions, aux collectivités régionales pour leur politique décentralisée. Ça a conduit à une série de désinvestissements paradoxalement dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine des infrastructures, et cela pour mettre en œuvre une mesure qui pose des problèmes gigantesques en termes de logistique. Vous imaginez, centraliser la décision de fournir des repas gratuits à plus de 80 millions de personnes sur un archipel comme celui de l'Indonésie, ça pose des problèmes massifs en termes d'attribution de marchés publics. On a vu évidemment déjà des marchés attribués à des entreprises qui n'avaient pas suivi une procédure tout à fait régulière, et ça a posé dans de nombreux cas des problèmes d'ordre sanitaire. Plusieurs milliers d'écoliers ont été malades parce que ces repas n'étaient pas de bonne qualité. Et donc, alors ce qui n'est pas très étonnant compte tenu de l'échelle à laquelle ces repas sont distribués, mais ça a cristallisé là aussi le mécontentement autour d'une mesure à laquelle tient énormément le président. Ça faisait partie du cœur de son programme. Il veut la mettre en place coûte que coûte, avec des bénéfices qui sont considérés jusqu'à présent comme relativement limités.
Donc des élus locaux, des structures locales ont alerté. Dans un archipel comme l'Indonésie, il faut bien entendre ce qui remonte de chaque île, mais le gouvernement s'est obstiné sur cette mesure-là, dans le cadre de cette reconcentration du pouvoir et des ressources dans le gouvernement central qu'on observe depuis quelques années en Indonésie, comme en fait on regrignote tout ce qui progressivement a fait ce qu'on a appelé la réformatie en Indonésie, cette période ouverte par la chute de la dictature de Suharto en 98.
Notre génération, la Gen Z et les autres jeunes, je crois que nous avons atteint une certaine frustration. Nous n'avons plus peur de rien. Les jeunes n'en peuvent plus des fonctionnaires corrompus, des gouvernements corrompus, de ces gens qui détruisent la planète et nos vies. On nous appelle la génération dorée, car nous sommes la génération censée bénéficier d'un bonus démographique pour les 100 ans de l'indépendance de l'Indonésie en 1945. Donc, on en attend de nous qu'on donne beaucoup à ce pays, mais on ne voit pas grand-chose en retour.
Extrait d'un documentaire pour RFI, un grand reportage sur l'Indonésie de Charlotte Terrero pour RFI. Ce vice-président du gouvernement étudiant de l'université de PGN, Ezra, il a 22 ans. Il parle de cette génération dorée qu'il est censé lui représenter, qui a priori n'a pas connu en 98. En tout cas, peu d'entre eux ont vraiment connu et se rappellent de la chute de Suharto en 98. Delphine Alès, néanmoins, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? De quoi se sentent-ils ces jeunes Indonésiens redevables des luttes portées par leurs aînés et comment voit-il cette démocratie indonésienne peut-être petit à petit, non pas se refermer totalement, mais en tout cas montrer tous ces écueils dont on commence à parler depuis le début de cette émission?
Alors, il y a une déception en Indonésie qui n'est pas propre à la jeunesse ou au mouvement étudiant à l'égard des dividendes de la période de réforme politique. C'est vrai que l'Indonésie fait partie des pays dont la transition démocratique a été réussie. Depuis 1998, se sont mises en place des élections régulières, des institutions. On a une démocratie avec un régime présidentiel, mais un grand nombre de partis politiques qui sont représentés au Parlement et qui forment des coalitions, qui font pression parfois sur le gouvernement. Mais on a effectivement une déception vis-à-vis de l'état de droit, un taux de corruption qui reste extrêmement élevé dans le pays. Ça fait d'ailleurs partie des éléments qui ont conduit à cristalliser cette contestation au mois d'août, puisque le président a accordé son pardon présidentiel, alors comme c'est le cas chaque année au moment de la fête nationale, mais cette année parmi le millier de personnes environ qui ont reçu un pardon présidentiel, habituellement plutôt des personnes âgées, des très jeunes, des malades ou des condamnés pour des toutes petites infractions, il y avait cette année deux responsables politiques majeurs condamnés pour des faits de corruption que le président a décidé de pardonner pour coopter d'une certaine manière leur parti et notamment le principal parti d'opposition. Donc tout cela évidemment cristallise un mécontentement très important de l'ensemble de la population, pas uniquement la jeunesse. Ensuite, c'est vrai qu'il y a en Indonésie une sorte de récit national autour de l'engagement de la jeunesse et pas uniquement des étudiants. On remonte très souvent un peu dans l'historiographie nationaliste indonésienne à un serment prononcé par les jeunes indonésiens, le serment de la jeunesse, en 1928, qui a été le moment où ont été posées les bases symboliques de l'État indonésien. L'idée d'avoir une langue, un peuple et une nation, et qui a contribué à organiser par la suite le mouvement national qui a mené à la décolonisation du pays. Donc il y a cette mise en récit de l'engagement de la jeunesse et du rôle qu'elle peut jouer dans la vie politique indonésienne et les destinées nationales. Mais je voudrais peut-être relativiser un tout petit peu ça. Il y a eu une étude très intéressante publiée il y a quelques mois par Burhanuddin Mutadi et Eve Warburton, deux politistes qui travaillent justement sur la jeunesse indonésienne et qui parlent de jeunesse complaisante, en disant que les jeunes indonésiens aujourd'hui, ils le montrent avec une enquête très approfondie, des sondages, sont attachés à la démocratie, donc il n'y a pas de remise en question de la démocratie en tant que système politique, mais sont relativement apathiques dans leur pratique de la démocratie. Alors, il y a en Indonésie un taux de participation à la vie politique qui est très élevé, avec des chiffres qui font rêver, notamment en France, plus de 80% de participation aux élections présidentielles et législatives, par exemple, mais une très faible adhésion ou une très faible considération, et notamment de la part des jeunes, à l'égard de la représentativité des partis politiques. On vote par habitude, ça a été instauré comme ça, les élections sont scénarisées comme des moments de fête de la démocratie depuis le régime de Suharto, mais on se reconnaît très peu dans les partis politiques et on préfère s'engager dans des mouvements de proximité, d'ailleurs plutôt qu'au niveau national.
D'autant que le fonctionnement de la politique indonésienne est très particulier et que les présidents qui sont aussi, dites-moi si je me trompe, Delphine Alès, chef de l'État, enfin ils sont chef de l'État et chef du gouvernement en même temps, c'est ça, et ils doivent s'adosser sur des coalitions très 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 larges, quitte à englober leurs anciens adversaires politiques dans leur majorité. Joko Widodo, l'ancien président, a d'ailleurs terminé son mandat avec une coalition qui rassemblait 525 députés sur 575. Alors peut-être que les politistes que vous citez ont été surpris, puisque leur étude date d'il y a quelques mois, c'est ça. Ont été surpris de voir combien certaines mesures prises récemment par le président Prabowo Subianto avaient allumé ou rallumé une certaine flamme. Alors, il faut quand même rappeler qu'en Indonésie, on manifeste assez souvent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand, au mois de mars, Prabowo Subianto fait adopter un projet de loi qui autorise les militaires à occuper des postes dans l'administration civile tout en gardant leur uniforme, pourquoi ce texte-là en particulier a aussi fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là en Indonésie?
Oui, et ce texte avait d'ailleurs provoqué une première série de manifestations, effectivement, au printemps dernier. Alors, c'était un texte symbolique, mais qui montre la volonté de l'actuel président de reprendre le contrôle sur une partie des institutions. Prabowo Subianto, qui est lui-même un ancien militaire, a confiance dans l'armée. Il fait plus confiance au personnel militaire qu'au personnel politique. Et donc cette loi, effectivement, permettait d'une part aux militaires d'actifs d'exercer des fonctions jusque-là dévolues aux civils. Les militaires avaient besoin de démissionner de l'armée pour être nommés à des fonctions politiques ou à la tête d'administration. Ça n'est plus le cas. Et en plus de cela, les autorise à rester en uniforme, ce qui est une mesure symbolique, mais qui rappelle effectivement le régime de Suharto, dont Prabowo Subianto était l'un des généraux les plus importants et les plus décriés pendant la période démocratique. Effectivement, et le gendre, l'ex-gendre du général Suharto.
Dui Fungsi, la double fonction, c'était cette pratique héritée du dictateur Suharto que le président Subianto semble avoir quelque peu remise en place au mois de mars avec cette mesure-là. Est-ce que c'est lui, Prabowo Subianto, dont vous rappelez qu'il était un général très important sous la dictature de Suharto, on le soupçonne fortement, voire beaucoup plus, ça a été documenté, d'avoir joué un rôle direct dans l'assassinat d'opposants politiques dans les années 90, est-ce que c'est lui qui, en personne, a donné explicitement l'ordre de réprimer le mouvement quitte à ce qu'il y ait des morts?
Alors ce sont des informations qui sont effectivement documentées par des organisations de la société civile, mais il n'y a jamais eu en Indonésie de commission vérité et réconciliation ou de véritable enquête menée par les institutions sur les crimes commis dans les années 90 et au moment de la transition démocratique.
Et là en 2025, on sait si c'est lui qui a donné l'ordre quand on voit par exemple ce conducteur de mototaxi à Fan Kurniawan, il a 21 ans, il meurt sous les roues d'une voiture de police, ça a été filmé, la vidéo a énormément circulé. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure le président indonésien avait demandé aux militaires, aux policiers, d'être les plus répressifs possibles?
Il a eu un discours très ambivalent. Au moment des manifestations du mois d'août, avec cet affichage de drapeaux, il avait plutôt laissé ses proches et des parlementaires dire qu'il faudrait réprimer ces affichages symboliques, bon, d'autant que rien dans la loi ne permettait véritablement d'interdire l'affichage de drapeaux, simplement interdire le fait de placer ce drapeau au-dessus du drapeau indonésien. Prabowo Subianto, lui, essayait plutôt d'avoir un ton conciliant, un peu dans la continuité de l'image qu'il a essayé de se donner pendant la dernière campagne électorale, où il essayait de passer du registre de l'homme fort à celui du néo-converti à la démocratie et de l'homme un peu vieilli et assagi. En revanche, pendant les dernières manifestations, il a eu un discours qui tendait à sécuritiser ces manifestations et en expliquant que si les manifestants montraient des signes de terrorisme et de trahison, là, il faudrait se montrer impitoyable à leur égard, ce qui autorisait effectivement la police, voire l'armée, à agir de manière très forte avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau, voire en agissant directement et physiquement contre les manifestants.
Ce qui fait qu'il a eu beau jeu après la mort d'Afan Kurniawan, ce conducteur de mototaxi écrasé par une voiture de police. Il a eu beau jeu, Prabowo Subianto, le président, de présenter ses condoléances à sa famille.
En mon propre nom et en celui du gouvernement indonésien, je voudrais exprimer mes sincères condoléances et toute ma sympathie. Je suis profondément préoccupé et attristé par cet incident. Le gouvernement apportera son soutien à la famille du conducteur et accordera une attention particulière à ses parents, à ses frères et sœurs ainsi qu'à ses proches. J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente sur l'incident survenu de la nuit dernière et les agents impliqués doivent être tenus responsables. Si l'on constate qu'ils ont agi au-delà de la limite de la bienséance et des règles en vigueur, nous prendrons les mesures les plus strictes, conformément à la loi.
Prabowo Subianto, qui à la fois se veut très sévère vis-à-vis des policiers qui ont commis des crimes pendant ces manifestations, cette répression Delphine Alès, mais qui dans le même temps rend visite à ces mêmes policiers quand ils sont blessés.
Oui, effectivement, il a indiqué que si des débordements avaient eu lieu ou si des violences policières avaient été commises indépendamment des ordres donnés, il faudrait punir les coupables, mais le fait est qu'aucun n'a été véritablement condamné, qu'il a rendu visite aux policiers blessés et à leurs familles, et qu'il a semblé montrer plus de compassion à leur égard qu'à celui des foules.
Je crois qu'il y a un policier qui a été suspendu, c'est ça, sur sept manifestement impliqués. Qu'est-ce que ça a généré, ce drame, la mort d'Afan Kourniawan? À qui ça a parlé, en fait, cette histoire-là? Parce que ce jeune homme, il était en train de travailler quand il s'est fait écraser par les forces de l'ordre, et il représente quelque chose, ne serait-ce que son métier en Indonésie est aujourd'hui un métier très répandu.
Tout à fait, ce jeune homme donc de 21 ans n'était pas un manifestant, il s'est simplement trouvé sur place parce que c'était un livreur à moto qui était en train de livrer une commande proche du lieu d'une manifestation, et il représentait finalement les Indonésiens qui se battent pour joindre les deux bouts en faisant des petits métiers plus ou moins informels, plus ou moins formalisés, dans un contexte où il y a une forte demande, notamment à l'égard des plateformes, alors qui sont des plateformes nationales, mais un petit peu l'équivalent de ce que l'on connaît ici comme Uber Eats ou GoFood. Et donc ce jeune homme symbolisait en quelque sorte cette très importante partie de la population indonésienne qui peine à trouver un travail formalisé et à subvenir à ses besoins, tout en travaillant bien au-delà des horaires raisonnables.
Ce qui s'est passé fin août illustre une tendance de l'État à glisser vers un régime autoritaire. Encore une fois, les critiques publiques sont traitées par une approche sécuritaire, alors que l'Indonésie porte le traumatisme des événements de 1965, de 1974, de 1998, lorsque les mouvements de protestation avaient été réprimés par la force. L'État agit aujourd'hui de manière arbitraire. Au nom de l'intérêt national et de la stabilité politique, il pratique des emprisonnements, tire à balles réelles et exerce des pressions contre les médias. Quiconque porte des vêtements noirs est accusé d'être anarchiste. Beaucoup de personnes interpellées n'étaient pas des manifestants, mais simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Et depuis 2016, le chef de la police, Tito Karnavian, a mené une série de chasses, entre guillemets, contre des individus soupçonnés d'être des anarchistes.
Alors ce monsieur qu'on vient d'entendre s'appelle André Younous, interrogé encore une fois par Charlotte Terrero pour RFI. C'est un avocat responsable de l'association de défense des droits humains Contras. Et là, Delphine Alès, il faut expliquer ce que c'est que cette association Contras, qui a priori, me semble-t-il, n'existait plus depuis 1998. C'est une organisation qui a documenté les crimes de la dictature de Suharto, mais qui s'était, non pas dissoute, mais elle n'existait plus, si.
Qui continuait à exister en sommeil. Donc Contras, c'est effectivement une association pour qui favorise des enquêtes sur les disparus et les victimes de violences, et qui plaide notamment pour l'établissement d'une commission vérité et réconciliation pour enfin faire la lumière sur les crimes du régime Suharto, et qui a repris du service. Alors symboliquement, c'est effectivement très important. Elle avait un peu perdu de sa visibilité, même si elle restait active dans le contexte de différents mouvements sociaux. Il y a eu un autre épisode assez violent en Indonésie en 2019 dans le contexte duquel s'étaient mobilisés notamment des étudiants ou des soutiens à la cause des Papous qui luttaient contre le racisme à l'égard des populations papous et pour les droits des populations de cette partie de l'archipel. Donc Contras s'était aussi mobilisé dans ce contexte-là et lutte plus largement contre les violences policières et les violences de l'État. Mais effectivement, le fait qu'elle reprenne prennent de la visibilité aujourd'hui dans un contexte où est au pouvoir un président qui a joué un rôle aussi important sous le régime Suharto et symboliquement extrêmement significatif.
Donc qui reprend du, non pas du service, mais en effet une certaine visibilité, mais pour reconstituer les faits aussi, établir la vérité, au moins des documents précieux pour de futures enquêtes sur les crimes commis par la police, en l'occurrence indonésienne. Alors tout en rappelant qu'il y a eu aussi des violences du côté des manifestants, avec par exemple l'incendie du Parlement local à Makassar qui a tué 3 personnes piégées dans les flammes. On a vu aussi un homme être battu à mort par la foule. Il avait été pris pour un agent infiltré, apparemment à tort. Néanmoins, un document a fuité qui nous apprend que l'armée a appelé des milices privées à se tenir prêtes contre les manifestants. Également des journaux qui ont enquêté sur l'implication de militaires dans des émeutes pour tirer parti du chaos. Quel est le rôle d'ailleurs de la presse aujourd'hui en Indonésie, dans une époque un peu de rétrécissement des libertés que vous étiez en train de décrire?
Alors la presse aujourd'hui en Indonésie est largement doublée par les réseaux sociaux. La société indonésienne est l'une de celles qui a le taux de pénétration des réseaux sociaux le plus élevé au monde, et c'est particulièrement marquant pour un pays en développement. Donc il y a toujours une presse, hein, bien sûr, papier, quotidienne, d'assez bon niveau, représentative de différentes tendances politiques en Indonésie. Mais la presse, disons conventionnelle, est de plus en plus l'apanage d'une certaine élite par rapport aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux ou sur des boucles WhatsApp ou Telegram. Là, ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que pour la première fois, lors des manifestations du mois d'août et de début septembre, c'est TikTok qui a joué un rôle très important. Le TikTok, sans doute fortement incité par le gouvernement, a d'ailleurs mis en suspens pendant quelques jours la fonction live streaming qui permettait de documenter en direct les manifestations et les violences policières. Mais donc c'est la première fois que ce réseau a joué un rôle d'embrasement aussi important.
Ce qu'on entend aussi, Delphine Alès, à vous écouter, c'est qu'il y a quand même une différence entre l'Indonésie d'aujourd'hui et celle de 98, c'est que la société est quand même plus structurée, mieux à même aussi de défendre ses droits. Donc est-ce qu'elle peut parce qu'on a plutôt vu là les cortèges s'amoindrir, hein, et notamment cette répression policière qui semble avoir convaincu beaucoup d'Indonésiens de finalement rester chez eux. Néanmoins, est-ce que ça peut en rester là, sachant que la société indonésienne s'est structurée?
Oui, alors il y a des corps intermédiaires effectivement qui n'existaient pas ou beaucoup moins en 1998. C'est une différence majeure, mais ce qui est frappant, c'est la différence entre la classe politique, le Parlement, qui s'est comporté de manière relativement unanime dans cette affaire, et des organisations représentatives de différents intérêts de la société civile. On avait dans les manifestations des organisations étudiantes, des organisations syndicales, des mouvements féministes. Ces manifestations avaient commencé avec des étudiants, mais sont vraiment devenues intersectorielles et symbolisaient véritablement une opposition ou un décalage entre les attentes de la population dans la rue et la classe politique qui défendait ses intérêts. À l'inverse, la totalité des partis politiques représentés au Parlement étaient à l'origine favorables à l'augmentation de l'indemnité de résidence qui a embrasé la foule. Ils y avaient directement intérêt. Et le président a eu beau jeu ensuite de jouer le rassembleur, d'essayer de dépolitiser le mouvement et cette décision en recevant 16 représentants des grandes organisations islamiques nationales au palais présidentiel. Certaines organisations ont d'ailleurs ensuite prêté main forte à l'encadrement, je vais le dire comme cela, avec des guillemets, des manifestations, en prêtant leurs organisations paramilitaires et leurs services d'ordre. Et puis la totalité des représentants des partis représentés au Parlement ont fait une déclaration commune dans laquelle ils s'excusaient et revenaient sur cette décision de s'auto-attribuer une indemnité de résidence. Donc on voit vraiment un décalage, encore une fois, entre l'unanimité des partis politiques représentés et ce qui se passe dans la rue, où il n'y avait finalement qu'un seul tout petit parti politique, un parti des travailleurs, qui n'est pas représenté au Parlement.
Ce qui me rappelle ce que dit l'un de vos collègues ou confrères, Rémi Madini, chercheur au CNRS, en Indonésie depuis l'indépendance, on a toujours un peu confondu une unité de la nation et unanimisme. Comment expliquer, Delphine Alès, que parmi tous les partis qui existent en Indonésie parce que c'est une démocratie et que l'opposition est présente, aucun n'a soutenu le mouvement des jeunes contre le président?
Absolument. On a effectivement un usage en Indonésie depuis l'indépendance qui consiste, vous le disiez tout à l'heure, à essayer de construire des coalitions politiques les plus larges possibles, indépendamment d'ailleurs de ce que peuvent être les programmes de ces partis politiques. Vous citiez tout à l'heure, c'était particulièrement illustratif, la présidence et la deuxième présidence de Joko Widodo, qui avait réussi à intégrer dans son gouvernement son principal opposant, Prabowo Subianto, qui était ministre de la Défense avant de devenir président de la République, mais qui avait été candidat à la présidence contre Joko Widodo lui-même. Et Prabowo Subianto s'efforce de faire un petit peu la même chose. Alors, il a plus d'opposition. Le principal parti politique indonésien, le parti démocratique indonésien de lutte, celui de l'ancienne présidente et fille du fondateur de l'Indonésie moderne, Megawati Sukarnoputri, c'est le principal parti d'opposition. Malgré cela, il y a un dialogue et on peut voir dans certaines mesures ou décisions du président une volonté de chercher progressivement à coopter aussi ce parti d'opposition. Et puis quand on regarde la composition de la coalition présidentielle et de la coalition d'opposition au Parlement, puisqu'il n'y a que deux coalitions, on voit que finalement elles se ressemblent beaucoup. Il y a dans les deux coalitions des partis que l'on classerait plutôt à la gauche de l'échiquier politique, même si ces catégories sont discutables dans le contexte indonésien. Il y a dans les deux coalitions des partis avec une dimension musulmane ou islamiste. Il y a dans les deux coalitions des partis plutôt nationalistes. Donc il n'y a pas de véritable cohérence politique ou d'alignement politique.
J'en profite pour rappeler qu'en Indonésie, 87% des habitants, des 280 millions d'habitants, se déclarent de confession islamique, d'où les références que vous faites à ces organisations islamiques reçues par Prabowo Subianto pour ouvrir un semblant de dialogue. Mais en attendant, pourquoi se montre-t-il aussi fébrile? Il a été élu il y a un an, plutôt bien élu, 58,6% des voix. Est-ce qu'il tient à ce point au pouvoir et se sent à ce point éjectable que la fièvre lui est montée et qu'il a fait tirer sur des presque gamins?
C'est difficile à dire. Il est sans doute assez surpris, effectivement, par cette contestation, parce qu'il a été bien élu. Mais il a été bien élu tout en étant un choix par défaut pour une grande partie de la population indonésienne. Si on regarde ce qu'a été l'évolution de sa cote de popularité, ou plus exactement des intentions de vote des Indonésiens pendant la campagne présidentielle, il a véritablement pris de l'avance à partir du moment où son prédécesseur lui a accordé un soutien implicite et où il a intégré sur son ticket en tant que candidat à la vice-présidence le fils du président sortant.
Son ancien adversaire et son prédécesseur.
Voilà, mais ce n'était pas un blanc-seing ni un vote d'adhésion à sa politique. Il y a une très grande méfiance effectivement à l'idée que revienne au pouvoir un représentant de l'ancien régime.
Ça ne l'a pas empêché, en revanche, le fait d'être inquiet pour son poste, de quitter le pays en pleine manifestation début septembre, quand il s'est rendu à l'invitation de Pékin à la grande parade militaire chinoise du 3 septembre, à laquelle étaient conviés plusieurs chefs d'État des Sud. C'est parce qu'il s'est dit à ce moment-là que le pouvoir n'était pas en danger. Enfin, comment lire le fait qu'il ait quitté le pays à ce moment-là?
Ça a été présenté comme cela. Il avait initialement décidé de se faire représenter par son ministre des Affaires étrangères. Et puis, il est revenu sur cette décision. Il a fait un aller-retour très court pour cette grande parade à Pékin, avec comme objectif de montrer que la situation n'était pas si grave que cela, et qu'il pouvait se permettre de quitter le pays parce que la situation interne était sous contrôle.
Et quelques jours avant d'être... Donc, ce qu'il a décidé par ailleurs un peu plus tard, de remplacer 5 ministres le 8 septembre, comme une sorte de gage donné aux manifestants. Quelques jours avant d'être remplacé, la ministre des Finances avait annoncé pour 2026 un budget en hausse pour la sécurité et pour les forces de l'ordre, alors qu'il y avait des coupes budgétaires dans l'éducation et la santé. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui le président et le gouvernement indonésien ont l'intention de revoir leur copie ?
Alors, il a effectivement non seulement remplacé cinq ministres, dont la ministre des Finances, dont la maison avait d'ailleurs été mise à sac par les manifestants, mais il a aussi élargi son gouvernement. Je crois que c'est inédit en Indonésie, mais peut-être à l'échelle mondiale. Il y a 123 membres du gouvernement aujourd'hui en Indonésie, ce qui pose des vrais problèmes d'accès avec le président, puisqu'il n'a pas le temps, évidemment, de dialoguer avec chacun de ses ministres.
Ça fait un gros conseil des ministres.
Donne parfois des ordres directement aux administrations. Et donc, cet élargissement du gouvernement participe de la recentralisation du pouvoir. Il a revu sa copie sur un certain nombre de mesures symboliques. On évoquait tout à l'heure la question des indemnités parlementaires, mais en revanche, sur tout ce qui concerne la sécurité, la recentralisation du pouvoir et donc le fait de retirer 20% tout de même de ressources aux gouvernements régionaux et le fait d'ouvrir un grand nombre de nouveaux bataillons militaires qui quadrillent vraiment le territoire indonésien, là, il mène effectivement cette politique.
Et les Indonésiens savent très bien, par exemple, que en mars, le président indonésien a commandé deux sous-marins français à Naval Group. Et puis, il y a eu cette lettre d'intention signée à Paris entre Emmanuel Macron et Prabowo Subianto, bientôt invité au défilé du 14 juillet pour des avions de combat Rafale.
Il en a aussi.
Seperti bawah lampu, kau bisikkan kamu apa yang kau mau, dia atau aku, karena mata madu. Hold my hands, don't tell your friends. Cerita kemarin, ku ingat permanen. Manis muka ya permen, I hope this never ends. Oh, can you be my Gwen, and I'll be the Spider-Man. Sakit darahku, ku mulai merindu. Kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika diperlukan ku. Sakit darahku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Dan ku pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika diperlukan ku.
Tensi et Naikila, deux rappeurs, un rappeur, une rappeuse, et leur chanson Garam Dan Madu qui veut dire sel et miel. Cette chanson date de 2024, tous deux sont indonésiens et se sont fait connaître sur TikTok, comme beaucoup d'ailleurs des membres du mouvement social qui secoue l'Indonésie depuis le mois d'août. C'est le troisième épisode de notre série sur les colères, la colère universelle engendrée par les inégalités partout dans le monde, et avec ce point commun entre beaucoup de mouvements en ce moment de se revendiquer comme des mouvements de jeunesse, avec des références commune, celle du manga One Piece, aujourd'hui en Indonésie, mais aussi au sud-est du pays, cette fois au Timor oriental ou Timor-Leste.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
À la mi-septembre, des milliers de Timorais descendaient dans les rues contre les privilèges de leurs dirigeants. La mesure qui a fait déborder la coupe concerne, comme en Indonésie, les parlementaires. Mais là, il ne s'agit pas d'une allocation logement, mais de l'achat de 65 SUV mis à leur disposition pour leur bon plaisir.
Je n'y crois pas. Comme le dit la rumeur, les voitures sont déjà en route. Cela concerne aussi les enfants des dirigeants politiques. C'est pourquoi tous les étudiants et moi-même sommes ici aujourd'hui, pour nous assurer que l'argent de nos impôts n'ira pas là où il ne doit pas aller.
Bonjour Frédéric Durand.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de géographie à l'université Toulouse Jean Jaurès. D'abord, est-ce qu'ils les ont eu leurs voitures, les parlementaires timorais ?
Ça a été annulé, mais après, finalement, un mouvement qui a été très rapide et un gouvernement qui a compris, notamment sans doute suite à l'exemple indonésien qui était évoqué plus tôt dans l'émission, qu'il fallait faire attention aux manifestations.
Le gouvernement qui a donc tout de suite annulé cette mesure de 4 millions de dollars, quand il a vu que les étudiants sortaient dans les rues, puisque l'université est tout près du Parlement au Timor.
Effectivement. Alors, dans un premier temps, la manifestation a été interdite quand même par la police, puisqu'il y a une loi qui interdit d'avoir des manifestations à proximité des bâtiments publics. Et donc, les étudiants ont refusé cette interdiction, sont descendus dans la rue. Donc, il y a eu un millier de personnes. Alors, à l'échelle de Dili, c'est une plus petite capitale que Jakarta, bien sûr. Hein. Donc, c'était quand même beaucoup de monde. Et avec donc des jeunes brandissant des drapeaux nationaux, mais aussi le drapeau pirate One Piece. Mmh. Donc, un peu un clin d'œil aussi aux autres mouvements de jeunes dans le monde. Sachant que le Timor-Leste est un pays très jeune, puisque 60% de la population a moins de 16 ans.
Donc, je ne sais pas ce que sont devenues ces voitures payées 4 millions de dollars en tout, qui étaient déjà sorties du garage et qui s'apprêtaient à arriver au Parlement. En tout cas, le gouvernement a dit qu'il n'en voulait plus. Il a aussi accédé à la demande de ces jeunes d'annuler la loi de 2006 sur les salaires à vie des parlementaires, des ex-présidents et des ex-premiers ministres. Il n'a donc pas fallu bien longtemps aux manifestants pour convaincre leurs dirigeants, en l'occurrence le Premier ministre, d'accéder à leur demande. Comment expliquer cette vélocité à aller aussi vite, cette vélocité à leur répondre?
Alors, déjà, le Timor-Leste est un pays qui a failli ne pas exister, hein, puisque c'est un pays qui a été envahi par l'armée indonésienne en 1975 et qui a été occupé militairement du temps du général Suharto jusqu'en 1999. Donc, c'est un pays qui a peur. Et suite à aussi donc il y a eu une transition de l'ONU, puis l'indépendance en 2002, et 4 ans plus tard, en 2006, il y a eu une crise politique entre les deux grands partis de l'époque, le Frétiline, un peu d'obédience marxiste, et le CNRT de Sanana Gusmão, l'actuel Premier ministre, et une crise majeure qui a duré des mois et qui a failli déchirer le pays. Donc, pour avoir failli ne pas exister et avoir déjà vécu une très grave crise, les dirigeants timorais savent qu'il faut calmer une population qui est très qui est rapidement prête à s'échauffer. Et il y avait en plus un calendrier particulier qui était que le 26 octobre, c'était il y a 3 jours, Timor-Leste devait intégrer l'ASEAN, l'Association des pays d'Asie du Sud-Est. Adhésion qui demandait depuis plus de 10 ans. Donc le fait qu'il y ait des troubles risquait de compromettre cette signature officielle de l'adhésion de Timor-Leste à l'ASEAN.
Timor oriental ou Timor-Leste, pays très jeune dont vous rappeliez qu'il a été occupé par l'Indonésie pendant 25 ans. L'Indonésie qui l'a envahi en 75 avec la complicité et les armes des États-Unis et qui a commis un massacre entre 100 000 et 200 000 morts. Les chiffres varient considérablement d'une source à l'autre. En tout cas, c'était de toute façon, quoi qu'on en dise, un massacre. Est-ce qu'aujourd'hui la vie politique au Timor oriental, au Timor-Leste, est une vie pleine de débats, avec une opposition digne de ce nom, avec des citoyens autorisés à manifester et une presse autorisée à critiquer?
Absolument. C'est considéré d'ailleurs comme une des plus grandes démocraties d'Asie. Alors là, c'est peut-être une chance aussi d'avoir eu ce passé qui fait que les dirigeants timorais comprennent qu'il faut être ouvert, qu'il faut prendre de la distance par rapport aux dictatures qui les entourent. Le président actuel, José Ramos Horta, qui a été un des leaders de l'indépendance dès 1975 et qui est lauréat du prix Nobel de la paix, et a connu aussi toutes les arènes onusiennes, donc il connaît très bien tous les soucis qui ont pu se passer dans le monde tout au cours du XXe siècle et du début du XXIe. Donc ils ont conscience de ça et ils ont envie que leur pays réussisse. Donc c'est ça qui fait la force et qui a vraiment une volonté. Donc il y a notamment une vraie vie politique avec les femmes qui sont intégrées. C'est d'ailleurs une femme qui à la tête du Parlement actuellement. C'est un pays qui a un des meilleurs, enfin un très bon indice exercice de liberté de la presse devant l'Italie et les États-Unis ou le Japon. Donc, c'est quand même un pays qui a une vie démocratique assez rare, d'ailleurs, par rapport à beaucoup de pays dont d'un niveau économique faible.
Alors, est-ce qu'il y a encore des manifestations aujourd'hui de ces jeunes qui se proclament aussi de la génération Z et hissent ce drapeau de One Piece? Et est-ce qu'elles ont d'autres revendications à porter qui ont, quant à elles, été laissées en suspens pour l'instant?
Alors, pour l'instant, non. Les revendications, les manifestations ont duré 3 jours, donc ça a été très très rapide. Ce qui est quand même intéressant, c'est
efficace.
Qu'au départ, c'est parti. C'est efficace, absolument. Au départ, c'était uniquement sur les voitures, en fait, donc ce scandale d'achat des SUV. Mais très vite, ils ont réalisé que les parlementaires bénéficiaient, d'après une loi de 2006, d'une pension à vie équivalente à leur salaire. Et donc, c'est devenu une deuxième revendication qui a été que le Parlement a accepté de supprimer cette pension à vie au bout de 3 jours, et depuis c'est calme. Maintenant c'est un pays qui est en devenir, et c'est l'avenir économique qui est un peu en jeu aujourd'hui, sachant que quelque part ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que la principale ressource du pays, ce sont ses réserves en pétrole et en gaz assez importantes, qui ont déjà permis, par exemple, d'avoir 18 milliards de réserves sur un compte en banque. Donc, c'est un pays qui a de l'argent, mais qui dépend du pétrole, dans un monde où on devrait s'en passer de plus en plus si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique.
Merci beaucoup, Frédéric Durand. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de géographie à l'Université Toulouse Jean Jaurès, auteur d'un atlas géohistorique du Timor-Leste aux presses universitaires de Marne-la-Vallée, ainsi que de l'ouvrage Timor-Leste en quête de repères, perspectives économico-politiques et intégration régionale aux éditions Arcuris-Irasec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler d'un pays dont on parle assez peu et qui a vécu un énorme traumatisme à la fin des années 90, encore une fois avec la complicité des États-Unis à l'époque. C'est une histoire très très lourde à porter pour le Timor-Leste qui essaye avec l'Indonésie néanmoins de se rapprocher, de dialoguer, de discuter. Et on en revient, Delphine Alès, au président actuel de l'Indonésie, dont on a rappelé tout à l'heure le rôle qu'il a eu sous la dictature de Suharto. Je ne sais pas s'il a eu un rôle particulièrement au Timor-Leste, mais en tout cas, il avait un rôle militaire sous Suharto. Vous nous disiez qu'on sait aujourd'hui ce qu'il a fait, que tout ça est très documenté. S'il était formellement confondu, comment expliquer que son mandat de Premier ministre n'a pas été mis en cause? La page est déjà tournée en Indonésie?
Alors la page n'est pas tournée, mais le président précédent, Joko Widodo, avait promis au moment de sa première élection de permettre une enquête indépendante sur l'ensemble des crimes commis pendant la dictature de Suharto. Ça n'a pas été le cas. Cette enquête n'a pas eu lieu. C'est un sujet qui reste assez tabou aujourd'hui en Indonésie, même si des organisations, vous en avez cité tout à l'heure, essayent de documenter ces crimes. Ça reste pour le moment l'apanage de la société civile, et d'une société civile qui est très fortement dissuadée de s'exprimer librement sur ce sujet. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que cela revienne à l'ordre du jour sous la présidence actuelle.
On pourrait néanmoins imaginer qu'il se sente obligé par ces casseroles-là, quand il donne l'ordre aux forces de police ou aux militaires d'être très sévère vis-à-vis des forces, comme il les appelle, séditieuses, voire terroristes, donc les manifestants, on pourrait se dire qu'au contraire, il sent le poids de tous les yeux tournés vers lui, parce que tout le monde sait le rôle qu'il a eu sous la dictature de Suharto. Est-ce qu'il se sent aussi autorisé, d'une certaine façon, par un certain contexte mondial qui lui serait plus favorable?
Absolument, et c'est aussi la différence entre le moment où il a été élu et la situation aujourd'hui. Pendant 25 ans, l'Indonésie a vraiment joué le jeu de la transition démocratique, a promu sa transition démocratique sur la scène internationale, a essayé d'en tirer des dividendes en termes de relations et de bonne proximité avec notamment les États-Unis et les États membres de l'Union européenne. Est-ce qu'elle a vraiment tiré des dividendes justement de ces efforts et de cette autopromotion en tant que grand pays démocratique, musulman et modéré. Je n'en suis pas certaine. L'Indonésie est devenue véritablement intéressante au moment où elle devient un État pivot, notamment dans le contexte de la compétition de puissance avec la Chine dans la région. Et donc, elle se sent effectivement autorisée, d'une part parce que le consensus autour de la libéralisation politique sur la scène internationale, on le sait, est très fortement remis en question aujourd'hui, que l'Indonésie a d'autres référents, que son président a une proximité ou entretient en tout cas une relation de bon niveau avec les dirigeants chinois en particulier, mais aussi des relations régulières, par exemple, avec la Russie, et l'élection présidentielle aux États-Unis, avec un Donald Trump qui envoie lui-même la garde nationale sur des manifestations, par exemple, en Californie, l'autorise évidemment à intervenir de manière extrêmement musclée à l'égard de sa propre population.
Merci beaucoup, c'est limpide. Merci Delphine Alès, professeure de sciences politiques, chercheuse au Centre sur l'Asie du Sud-Est, vice-présidente de l'INALCO. Et je cherchais en vain les références de vos tout derniers livres parce que je ne me rappelle plus le titre, si vous voulez bien le rappeler, s'il vous plaît. Je suis désolée de vous donner ce rôle-là.
La part des dieux, ouais. Religion et relations internationales.
Oui, mais vous avez co-dirigé un autre
livre. J'ai récemment co-dirigé avec Christophe Jaffrelot un ouvrage aux presses de Sciences Po sur l'Indo-Pacifique.
Que je recommande, mais je ne me rappelle plus le titre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Delphine Alès. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
L'ONU demande de toute urgence, Catherine, l'ouverture de couloirs humanitaires au Soudan.
Alors que les craintes d'exactions massives se confirment, alerte Channel 4 News, la BBC et le site Al Monitor, à El Fasher, la dernière grande ville du Darfour, qui échappait encore au contrôle des paramilitaires, ils ont conquis cette ville dimanche après un an et demi de siège qui a affamé les civils, rappelle The Sudan Tribune. 2000 personnes auraient été tuées en 3 jours, ajoute Le Guardian et ABC News. Des traces rougeâtres sur le sol ont même été détectées par l'université américaine de Yale et son laboratoire de recherche humanitaire. Sur la base d'images satellites d'El Fasher, traces de cadavres au sol, des fosses communes également. Et les chercheurs de Yale parlent de nettoyage ethnique, maison par maison, de crimes contre l'humanité commis par les paramilitaires à El Fasher, comme le rapportent The Sudan Tribune, Al Jazeera et Channel 4 News. Dans cette guerre qui a déjà fait 150 000 morts et causé le déplacement forcé de 13 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, sans compter les crimes sexuels sur des milliers de femmes et de fillettes, indique Le Guardian. Aujourd'hui, plus de 26 000 habitants d'El Fasher ont été contraints de fuir la ville, s'inquiète l'ONU, marchant pendant des jours sous un soleil de plomb, sans nourriture, sans abri ni médicaments, mais avec la menace d'être tués à chaque instant par les paramilitaires, révèle Channel 4 News. La chaîne télévisée britannique montre la toute-puissance et le sentiment d'impunité de ces paramilitaires qui se filment eux-mêmes à El Fasher.
Outside El Fasher, the RSF filmed their military trucks menacing Darfuris, all of them black Africans trying to escape.
Aux abords d'El Fasher, les paramilitaires ont filmé leurs camions menaçant les habitants du Darfour qui tentaient de fuir. Tous des Africains noirs, souligne le journaliste de Channel 4 News. Sortez, hurle un commandant arabe, tuez-les. Et une tranchée est désormais jonchée de cadavres. Les paramilitaires ont également filmé des prisonniers à terre avant de les abattre à bout portant. Ces soldats se rendent coupables de crimes de guerre, insiste Channel 4 News. Et en filmant cela, en le publiant sur les réseaux sociaux, ils montrent qu'il s'en moque. Des assassinats motivés par l'appartenance ethnique, confirme Middle East Monitor. Le Darfour se souvient des massacres du début des années 2000, des viols et des razzias des milices arabes janjaouites dont sont issus les paramilitaires d'aujourd'hui, souligne Channel 4 News. Des milices soutenues par les Émirats Arabes Unis, qui le nient. Des paramilitaires soudanais, également aidés de mercenaires colombien, notamment, précise Le Guardian, qui a pu interroger l'un d'entre eux. Carlos, sous couvert d'anonymat, révèle notamment qu'il a enrôlé des enfants soldats, de jeunes Soudanais, devant servir de chair à canon.
La guerre au Soudan a marqué des auditeurs de France Culture.
Vous aviez d'ailleurs été très nombreux à m'écrire à ce sujet mi-octobre, mais jusqu'où aller dans le récit des atrocités commises? Cette question, je me la pose souvent et je vous la pose à mon tour avant la chronique interactive de samedi avec une journaliste de la BBC qui s'est rendue à Khartoum, la capitale soudanaise. Nawal Al-Maghafi a notamment rencontré Ahmed, un jeune soudanais de 16 ans qui déblaye les gravats sur une aire de jeu détruite par les combats. Vif contraste entre son enfance brisée, presque symbolisée par l'immense smiley qui figure sur le t-shirt gris et limé que porte Ahmed. Et ses macabres découvertes sur cette ancienne aire de jeu, une mâchoire, un fémur, un tibia. Alors ces images sont-elles nécessaires pour interpeller la communauté internationale, pour marquer aussi l'opinion publique, abreuvée de flots d'informations qui rendent parfois insensibles? Pour y répondre, vous pouvez m'écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com.
Enfin, direction les États-Unis où l'administration Trump est poursuivie en justice pour les coupes budgétaires prévues dans le système de bons alimentaires,
dont un habitant sur 8 bénéficie aux États-Unis, rappelle le New York Times. Ce soit 42 millions de personnes qui touchent en moyenne $187 par mois pour s'alimenter. Un fonds d'urgence ne sera pas prolongé à partir de samedi, 1er novembre. Inacceptable donc pour la moitié des États qui engagent des poursuites judiciaires, estimant que le gouvernement fédéral a l'obligation légale de maintenir le financement des bons d'alimentation que le Congrès a rendu permanent dans les années 60, précise le New York Times et MSNBC. On voit où sont les priorités du président, ironise le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, cité par le LA Times, alors que les coûteuses rénovations et destructions de la Maison-Blanche sont décriées en plein shutdown, rappellent le Guardian et le Financial Times. L'image de la façade ravagée, des décombres et des câbles d'acier a profondément choqué, souligne le Guardian, qui y voit un symbole parfait de l'administration Trump qui avance au bulldozer en politique, quitte à faire de nombreux dégâts, au propre comme au figuré, raconte le journal britannique de gauche avec ce qui est qualifié de ballroom blitz. Ballroom Blitz, la chanson des suites pour finir cette revue de presse internationale, ça fait aussi du bien, Julie.
Oui, ça fait du bien ou pas? Merci beaucoup, Catherine Dutu.